Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Donc, on est de retour après une longue pause avec Mme Bouchard. Bonjour, Mme Bouchard, ça va bien?
Bonjour, très bien, et vous?
Oui, ça va super bien. Vous êtes en présence de notamment de mes deux chroniqueurs collègues, Enzo et Marc-Antoine. Sur ce, là, si ça vous convient, on va commencer la petite entrevue. Donc, vous êtes la responsable de la coordination du 36e colloque de la Meuse portant cette année sur la question « Peut-on avoir une alimentation résiliente sans adapter notre système agroalimentaire? » Puis cet événement va justement se dérouler le 1er mars 2024 au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Donc, moi, je vous lancerai en fait sur ça. Est-ce que vous parlez un petit peu de qu'est-ce que c'est justement ce 36e colloque de la Meuse? Pourquoi c'est le 36e?
Oui, alors, chaque année, en fait, depuis 36 ans, l'Association de la maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke organise un colloque. Donc, c'est une journée de conférences, d'ateliers, de tables rondes avec des conférenciers, des experts en lien avec un enjeu environnemental. C'est organisé à 100% par les étudiants de la maîtrise. Et donc, cette année, c'est sur le sujet du système agroalimentaire et plus particulièrement, comment est-ce qu'on peut avoir une alimentation plus résiliente, comment est-ce qu'on peut s'adapter au changement climatique et est-ce qu'il faut aider notre système agroalimentaire pour parvenir à cette résilience.
OK, parfait. Puis est-ce que, je me permets une petite question comme ça, est-ce que c'est un petit peu en réaction justement aux manifestations qu'on a vues en France avec les fermiers justement qui sont mécontents avec de certaines mesures agroalimentaires? Est-ce que c'est peut-être ça a peut-être orienté le sujet peut-être?
Alors, on travaille sur le colloque depuis le mois de septembre, donc le sujet avait été déjà déterminé, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est encore plus dans l'actualité avec ce qui se passe en France en ce moment, où on voit justement les enjeux des lobbies agroalimentaires, de la rémunération des agriculteurs, des liens avec la réglementation environnementale. Donc, ce sujet tombe à pic en lien avec l'actualité.
Bonjour, moi c'est Enzo, je suis un des autres chroniqueurs de l'émission. Par rapport justement, ouais, ça c'est intéressant, ce colloque-là, on voit qu'il essaye de mener, justement c'est la problématique même du colloque, c'est est-ce qu'on peut avoir une alimentation résiliente tout en s'adaptant au système agroalimentaire. Aujourd'hui, moi, ce que je me demandais, c'est quels sont justement les principaux freins à ces changements éco-responsables de nos modes de production alimentaire. Et justement, j'y crois moi personnellement, mais comment on peut lier justement la lutte contre cette crise environnementale et une alimentation résiliente? Mais en même temps, dans un système qui, comme mon collègue le disait, il y a toutes les problématiques qu'on peut voir en ce moment avec les agriculteurs, tout ça s'imbrique un petit peu. Donc c'est vrai, dans le fond, c'est ça que je me demandais, quels sont les principaux freins à tout ça, puis comment on pourrait...
Les limiter. C'est vrai que c'est un des points qu'on veut traiter dans notre colloque, les freins au changement. Je pense qu'il y a un enjeu du consommateur où on est habitué à avoir des normes d'esthétique, de quantité, de qualité dans les supermarchés notamment. Et donc, on met une pression importante sur les agriculteurs, sur le système de production avec les engrais, etc. Qui n'est pas forcément compatible avec une alimentation résiliente parce que ça a un impact très important sur l'environnement. Il y a aussi tout l'enjeu des lobbies où au Québec, notamment, les distributeurs, c'est trois grands groupes qui se partagent finalement le marché. Ça peut faire que des plus petits producteurs ont plus de mal à être mis en avant dans des supermarchés. Il y a aussi les prix, on l'a vu cette année et puis l'année passée avec l'augmentation des prix. C'est difficile d'avoir des aliments à des coûts faibles. Et puis on a en tant qu'étudiant particulièrement, c'est pas forcément évident d'avoir un budget important pour acheter de la nourriture bio, par exemple, etc. Donc, il y a tous les enjeux de mondialisation aussi. Au Québec, on ne peut pas forcément produire en hiver des tomates, mais en tant que consommateur, on a peut-être envie d'en manger. Donc, ça peut être des freins à l'alimentation résiliente. Après, c'est compatible avec... il y a des solutions qui existent. Nous, c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant dans la deuxième partie dans notre colloque, en mettant des projets alimentaires innovants en avant. Mais il y a plusieurs solutions avec l'agriculture, la transformation.
Excusez-moi, je vous interromps un petit peu, Madame Bouchard. On vous entend très mal. Est-ce que c'est possible peut-être de replacer peut-être votre micro, votre téléphone?
Oui. Est-ce que vous m'entendez correctement?
Ah oui, là, c'est vraiment mieux.
Désolé de vous
avoir... Ah, d'accord. Pardon.
On a entendu ce que vous disiez, mais c'est vrai que ça grésillait beaucoup. Mais désolé.
Non, je pense que c'était ma réponse.
Merci. Mais effectivement, oui, comme vous dites, c'est vrai que c'est compliqué comme questionnement. Puis c'est vrai qu'en plus, ça va au-delà du consommateur, comme vous dites. C'est clair, cette concentration des gros industriels agroalimentaires, c'est ça aujourd'hui qui complique beaucoup la situation du consommateur, en fait, de pouvoir avoir une alimentation qui irait dans le bon sens, puis en même temps pour les agriculteurs, comme vous dites, puis surtout que le pouvoir d'achat est de plus en plus bas pour les étudiants, c'est compliqué aussi de pouvoir bien consommer. Donc, comme vous dites, j'entendais que vers des apiculteurs ou vers d'autres modes comme ça de production, je pense que c'est vers là qu'il faut aller aussi, c'est vers la production, puis vers d'autres. C'est vraiment intéressant, merci beaucoup. Je vais laisser mon collègue Marc-Antoine vous poser une question.
Outre les enjeux, comme mon collègue vient de mentionner, est-ce qu'il serait possible de nous parler rapidement des projets alimentaires innovants?
Oui, tout à fait. On a choisi d'en présenter plusieurs. Déjà, on va avoir une partie pendant l'heure du dîner où on va avoir plusieurs kiosques avec des initiatives. Je vous laisserai. On va notamment avoir le frigo de l'université qui va venir présenter un petit peu ce qu'ils font, mais aussi d'autres initiatives un peu plus, plus en lien avec la recherche, la biodiversité, etc. On va aussi, dans tous ces projets alimentaires innovants, l'idée, ça va être à la fois de repenser notre manière de consommer. Donc, ça peut être avec un étiquetage environnemental, par exemple, sur des produits pour nous montrer quel est l'impact environnemental de notre produit avec une étiquette, finalement, un peu comme la composition des aliments. Ben, on aurait la même chose pour l'environnement. Ça pourrait être aussi de revoir les types de production qu'on va avoir, notamment en lien avec les grains et les différentes espèces de produits que les agriculteurs vont produire, parce qu'aujourd'hui, avec les gros industriels, il y a de moins en moins de diversité dans le type de semences qu'on va mettre en terre, finalement, et donc d'essayer d'augmenter cette diversité-là. Après, il y a toutes les solutions aussi d'économie circulaire, j'en parlais un petit peu avant, mais pour réduire la quantité de ressources qu'on va utiliser ou bien réutiliser ce qui existe déjà. Donc ça, c'est plusieurs solutions qui vont venir augmenter cette résilience à toutes les étapes finalement du cycle de vie de la production.
Merci beaucoup pour votre réponse. Finalement, en fait, moi, j'aurais des petites questions sur votre colloque en tant que tel. Je vois justement que, dans ma petite fiche, ça dit que votre colloque a décidé de respecter les valeurs de l'AMEUS en ce qui concerne le choix de la salle de conférence, les fournisseurs alimentaires ainsi que les commandites. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu justement de ces critères-là sur lesquels votre organisation s'est basée? Et ouais, c'est ça.
Oui, en effet, on essaye d'organiser un événement éco-responsable. Donc déjà, on va respecter le guide de l'Université de Sherbrooke en lien avec ça. Pour la salle, on a choisi le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, déjà parce que c'est une salle de spectacle qui essaye de respecter l'environnement, qui a été notamment certifié éco-responsable. Mais aussi, c'est un point quand même assez central à Sherbrooke, avec tout le système de bus qui est à côté. On a mis en place des options de covoiturage pour les personnes qui viendraient de plus loin, pour justement limiter le nombre de personnes qui viendraient en voiture. Après, on essaye de s'approvisionner auprès de fournisseurs locaux. Donc, on va travailler avec le café Massawippi, qui est un traiteur de Sherbrooke, qui va nous fournir tout ce qui est en lien avec le repas et les collations. On va aussi faire du compost. On a un compost sur l'université, enfin sur le campus. Donc toutes les matières résiduelles qui vont être liées à l'événement, la partie organique ira vers le compost, mais on va essayer au maximum de limiter la quantité de matières résiduelles qu'on va produire en utilisant tout ce qui est des assiettes et des contenants réutilisables, en invitant les participants à venir notamment avec leurs tasses réutilisables par exemple. Donc on va aussi essayer de comptabiliser l'ensemble des gaz à effet de serre qui ont été mis en lien avec notre coloc et mettre en place une solution de compensation en lien avec ça. Donc ce sera probablement de planter des arbres notamment pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre. Puis on a essayé de privilégier des conférenciers québécois et de l'Estrie aussi, mais sur le Québec qui viendront en présentiel pendant la journée.
Moi, je trouve que c'est une initiative absolument géniale. Ça sonne vraiment cool. Je tiens à dire, ça me donne vraiment envie d'y être, en tout cas. Donc, moi, je vois que l'entrevue tire pas mal à sa fin. Je vois que... Peut-être faire un petit rappel, là, justement, c'est quand ce colloque? C'est le 1er mars, c'est bien ça, 2024?
Oui, tout à fait.
Et est-ce que vous avez un petit mot de la fin peut-être à nos auditeurs, à qui voudrait pouvoir y participer, comment qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait?
Oui, alors vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et LinkedIn. On a créé un événement pour le colloque. Vous aurez toutes les informations de la billetterie, les détails sur les conférenciers, sur les moyens de se rendre. Donc ce sera le 1er mars au Centre culturel de l'Université de 9h à 17h. Et on espère vous y voir nombreux pour pouvoir participer à cette réflexion autour du système agroalimentaire. En tout cas, merci de m'avoir invité pour parler du colloque.
Mais en tout cas, l'événement a l'air vraiment intéressant. Moi, je me permets de le dire. Puis en discutant de tout ça avec vous, ça m'a encore plus intéressé. Moi, je pense que j'y serai. Puis c'est vrai qu'il y a deux conférences qui ont l'air intéressantes. Enfin, les deux conférenciers ont l'air vraiment intéressants. Louis Robert, qui est agronome, puis une juriste spécialisée dans ces questions-là, Jessica Dufresne, si je me trompe pas. Mais en tout cas, j'invite moi tous les étudiants qui sont intéressés par la question écologique, la question environnementale, la question des systèmes agroalimentaires et de l'alimentation résiliente à venir à cet événement-là, surtout dans le contexte actuel, comme on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité d'environnement, d'agriculture, de consommation. Donc c'est vraiment quelque chose d'important dans notre actualité. Donc ouais, merci pour cet événement, puis j'invite tout le monde à y aller en vrai.
Donc, sur ce, allez à l'événement.
Merci beaucoup.
Merci, merci Madame Bouchard pour cette super entrevue. Et j'envoie nos auditeurs une petite pause musicale et on se revoit après la pause. Donc, merci à tous.